Bonjour à toutes et tous. Ce podcast est le premier d'une série qui va porter sur les enjeux écologiques des prochaines élections européennes. Cette série fera intervenir plusieurs personnalités qui ont contribué au dossier que La Fabrique écologique vient de publier sur le sujet. Ce dossier est composé d'une trentaine de fiches sur les différents thèmes de la transition écologique et est librement accessible sur le site de La Fabrique écologique. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, je reçois Géraud Guibert, président et cofondateur de La Fabrique écologique, sur les caractéristiques et l'importance de ce dossier et des enjeux qu'il porte sur le fond. Géraud Guibert, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi ces élections sont-elles particulièrement cruciales pour l'avenir de l'Europe et de l'écologie ?
Merci d'abord de m'avoir invité pour inaugurer cette série de podcasts. Je pense en effet que les prochaines élections européennes seront particulièrement décisives pour la transition écologique. D'abord parce que nous sommes à un moment très important pour l'action climatique, puisque nous le savons bien, beaucoup se joue dans la décennie d'aujourd'hui, la décennie des années 2020, pour réussir à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et il est très important que les mesures soient prises le plus vite possible pour atteindre cet objectif. Et donc, évidemment, les élections européennes, et compte tenu de l'importance de l'action de l'Europe et de l'Union européenne sur ce sujet, il est essentiel que ça reste un objectif tout à fait essentiel. Et le deuxième élément, c'est que nous sommes dans un contexte compliqué, difficile. Il y a eu la crise du Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, ce qui se passe à Gaza. Et on voit bien que le climat a tendance à être relégué comme préoccupation moins importante, alors que c'est une préoccupation absolument décisive pour l'avenir. Et donc il est très important qu'on évite en tout cas toute tentation de recul en arrière ou toute sous-estimation de ce sujet dans les prochaines semaines.
Alors comment ce dossier a-t-il été confectionné et comment est-il organisé et avec quel objectif ?
Alors ce dossier reprend une trentaine de thèmes sur lesquels il fait à chaque fois un bilan, l'état des lieux de la situation, par exemple sur la pollution de l'air, sur la pollution de l'eau, sur le climat, sur la biodiversité. Ensuite, récapitule les mesures qui ont été prises depuis 5 ans sur ce sujet. Et enfin, et c'est peut-être le plus intéressant, trace les perspectives d'avenir, les enjeux d'avenir et débouche sur quelques propositions sur chacun des sujets pour faire avancer ces sujets tout à fait concrètement. Ce dossier a été confectionné par de multiples sources, évidemment par les instances de La Fabrique écologique, par l'équipe, mais aussi par toute une série de personnalités qui sont connues sur le fond pour la qualité de leur connaissance, de leur expertise sur ce sujet et qui ont fortement contribué à ce dossier. Et je remercie évidemment toutes ces personnes qui ont très fortement contribué. Ça permet que tout le monde ait un panorama objectif, sérieux, rigoureux, complet sur les enjeux de la transition écologique qui doit être un élément majeur de la prochaine campagne électorale pour les élections européennes.
Alors, vous avez notamment travaillé sur la fiche climat, qui est, avec la préservation de la biodiversité, l'un des enjeux centraux de la transition écologique. Que représente l'Union européenne en termes d'émissions de gaz à effet de serre ?
Oui, rappelons-le, l'Union européenne représente beaucoup en matière d'émissions de gaz à effet de serre. 3,5 milliards de tonnes de gaz à effet de serre de CO2 émises en 2021, donc c'est tout à fait considérable. Et par habitant, chaque habitant de l'Union européenne émet 8,1 tonnes de CO2, ce qui est assez nettement supérieur à la moyenne mondiale qui est de 6,7 tonnes de CO2 par habitant. Et tout ça ne prend pas en compte les émissions correspondant aux biens importés. Alors vous le savez, depuis plusieurs décennies, l'Union européenne a tendance à importer de plus en plus de biens, en particulier de pays émergents, en particulier la Chine. Et évidemment, les émissions de gaz à effet de serre correspondant à ces produits ne sont pas comptabilisées dans ces chiffres. Donc en réalité, l'impact de l'Union européenne en matière de climat est tout à fait important. Il est aussi important, et c'est pour ça que ça mérite d'être signalé, il est aussi important dans l'action, puisque l'Union européenne a quand même diminué de presque de 30% ses émissions depuis 1990, et peut-être surtout parce que l'Union européenne joue un rôle majeur pilote dans les négociations internationales sur le climat et aussi d'ailleurs sur la biodiversité depuis plusieurs années. Donc il est important que l'Union européenne, ayant conscience de cette situation, continue à agir fortement dans ce domaine.
Alors justement, quel est le bilan de l'action de l'Union européenne dans ce domaine ? Et en particulier, quelles sont les mesures prises depuis quelques années?
Alors, il y a eu le fameux pacte vert de l'Union européenne depuis 5 ans, qui a été donc impulsé par la Commission européenne et qui est un élément assez curieux parce que en réalité, de très nombreuses dispositions ont été prises, mais très peu sont encore véritablement mises en œuvre. Donc, souvent, on accuse ce fameux pacte vert. Mais en réalité, on l'accuse sans beaucoup de fondement, puisque, encore une fois, très peu de mesures ont été véritablement appliquées. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le pacte vert introduit des outils majeurs pour arriver à la neutralité climatique et à la protection de la biodiversité. Quelques exemples, ce pacte vert, par exemple, est celui qui prévoit l'obligation de vente de véhicules électriques à partir de l'échéance 2035. Donc c'est tout à fait important. Ce taxe vert comporte des textes spécifiques sur les poids lourds, sur le transport maritime, sur les émissions de méthane, sur l'économie circulaire, sur de très nombreux sujets. Il y a des dispositions qui ont été prises. Et on voit bien l'intérêt. Chaque pays individuellement en Europe n'aurait pas pu, compte tenu du fait que c'est des pays relativement petits à l'échelle mondiale, n'aurait pas pu adopter ces dispositions de manière coordonnée. Avec l'Union européenne, elles ont pu le faire, même si il y a encore un certain nombre de défauts dans cette construction, à l'évidence.
Et alors, quels sont les enjeux pour les années à venir?
Alors, les enjeux pour les années à venir, ils sont multiples. Les enjeux, c'est qu'est-ce qui manque en matière climatique? Je me concentre dans ce podcast sur le climat. Qu'est-ce qui manque dans le domaine climatique pour réussir l'action européenne dans ce domaine? Et l'action, d'ailleurs, des différents États européens qui se conjuguent avec l'action européenne. La première chose qui manque importante à signaler, c'est que, en tout cas c'est notre diagnostic, très peu de gens ou pratiquement personne ne trace l'horizon vers lequel nous allons concrètement. Qu'est-ce que sera la France et l'Europe en situation de neutralité climatique à l'horizon 2050? Comment on se nourrira? Comment on se déplacera? Comment on se logera? Toutes ces questions-là, personne ne trace l'avenir. Et un des problèmes, par exemple, de la crise agricole, c'était bien de voir qu'un certain nombre d'agriculteurs, et ils ont raison, se demandent, mais qu'est-ce que deviendra l'agriculture dans 10, 20 ou 30 ans? Comment est-ce qu'on peut agir pour faire en sorte que l'agriculture permette de continuer à nourrir les gens dans de bonnes conditions, tout en préservant l'environnement et en agissant contre le changement climatique? Et donc, on voit bien que, de ce point de vue-là, il est extrêmement important que l'Europe prenne en compte ces différents sujets et agisse de manière beaucoup plus résolue pour montrer quel est l'horizon. Alors, il y a d'autres points qui, évidemment, sont des lacunes très fortes. Le deuxième point, c'est l'absence ou la grande difficulté de solidarité, en particulier vis-à-vis de ceux qui risquent d'être touchés par les mesures contre le changement climatique. Par exemple, ceux qui, dans l'industrie automobile, vont être obligés de changer de métier. Par exemple, ceux qui, étant obligés de prendre leur voiture pour aller au travail, vont se demander comment ils vont y aller alors que les véhicules thermiques vont être progressivement interdits. Par exemple, ceux qui n'ont pas les moyens de rénover leur logement pour se chauffer convenablement. Et donc, il est très important que ces victimes potentielles des mesures à prendre pour le changement climatique en aient les compensations, les contreparties qui leur permettent de dire « oui, nous sommes favorables à ce que la transition écologique et climatique se déroule dans ces bonnes conditions qui nous permettent de ne pas porter atteinte à notre mode de vie, en particulier évidemment les plus modestes, puisque ce sont eux qui sont souvent en situation de ce que j'appelle prisonnier énergétique, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas changer leur mode de déplacement ou leur mode de chauffage. Et donc, pour faire face à cette situation, il est très important que des mécanismes de solidarité budgétaire soient beaucoup plus importants. De ce point de vue-là, on est obligé de constater que l'Europe reste un nain en matière budgétaire, un peu plus de 300 euros par habitant pour le budget européen, alors que c'est plus de 6000 euros pour le budget français. L'Europe reste un nain, alors que des mécanismes de solidarité beaucoup plus importants devraient intervenir. Et le troisième point que je vais aborder plus rapidement, c'est évidemment l'éloignement des décisions européennes du citoyen, des citoyens, alors, qui est un vrai sujet.
Vous plaidez en matière de transition écologique pour un changement de méthode à l'échelle européenne. Pourquoi et comment ?
Alors, le changement de méthode, je l'ai dit, il passe par davantage de solidarité, mais il passe aussi par une association beaucoup plus grande des citoyens aux décisions européennes. Reconnaissons-le, l'Europe a été construite de manière assez technocratique, elle est lointaine, elle a des procédures de décision qui sont compliquées, même si l'élection au Parlement européen permet un certain nombre de choix importants et aux électeurs de choisir de manière importante. Mais une fois que vous avez choisi vos députés européens, il n'y a pas beaucoup de mécanismes, il n'y en a même pratiquement pas, qui permettent aux citoyens européens directement de faire entendre sa voix. Et donc il est important que l'Europe prenne des initiatives pour faire en sorte que les citoyens soient beaucoup mieux associés aux décisions, que les décisions ensuite soient prises au niveau européen, mais qu'elles soient gérées et organisées au niveau des États, voire des régions, voire des départements, voire des communes, et que donc il y ait une nouvelle méthode de beaucoup plus grande proximité démocratique pour que les citoyens s'y retrouvent et comprennent ce qui se passe et où va l'action de l'Union européenne. Et donc, il y a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine, et c'est sans doute un des points essentiels sur lesquels il faut que la campagne électorale, la future campagne électorale, fasse des propositions assez précises pour éviter à la fois le néant, parce que ce n'est pas forcément un sujet qui mobilise les forces politiques, mais pour éviter aussi le sentiment qu'il peut y avoir de bricolage entre le débat, le grand débat national, la Commission nationale de débat public, la Commission citoyenne pour le climat, etc. On a essayé beaucoup de choses, à vrai dire avec le sentiment assez fréquent d'échec ou de désintérêt de ces initiatives, alors qu'il y a des méthodes possibles pour permettre aux citoyens d'être mieux associés aux décisions prises au niveau de la Commission européenne et au niveau de l'Union européenne.
Un mot pour conclure ?
Je voudrais insister sur le côté, sur le climat et la biodiversité, sur le côté essentiel des futures élections européennes. Je l'ai dit, nous sommes dans une situation où toute une série de forces pèsent pour détricoter, pour allonger les calendriers, pour diminuer les normes, pour ne plus en faire une priorité. Et on voit bien que ça ne correspond pas d'abord à l'exigence climatique qui est importante parce que tout le monde va en souffrir si on ne fait rien et tout le monde risque d'en souffrir. Ça ne correspond même pas à l'intérêt de l'Europe. L'intérêt de l'Europe, c'est évidemment par exemple de s'affranchir des énergies fossiles. Comme vous le savez, la France en tant que cas importe la quasi-totalité de son pétrole et son gaz. C'est évidemment de son intérêt d'avoir une politique qui mette en avant l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, tout ce qui peut être une base nationale à l'énergie. Et donc, c'est évidemment l'intérêt de l'Europe, à la fois c'est l'intérêt de nous tous en matière d'effet des changements climatiques, mais c'est aussi l'intérêt de l'Europe, l'intérêt économique de l'Europe d'avancer beaucoup plus vite et beaucoup plus fortement. Et c'est vrai qu'il y a un changement sur la nature de débat public sur ces sujets depuis quelques mois, avec le sentiment qu'un certain nombre de forces politiques veulent vraiment revenir en arrière, voire ne rien faire sur ce sujet, alors que ce sujet est essentiel et qu'il est essentiel y compris pour les modes de vie et la façon de vivre de chacun d'entre nous. Il faut vraiment arriver à ce changement de méthode pour permettre une politique climatique offensive et réussie. Un des objectifs étant que nous continuions et que nous accélérions pour avoir une trajectoire de réduction très forte dans les prochaines années et d'ici 2040 et 2050 de notre empreinte climatique et écologique. Car c'est nous, par les feux de forêt, les inondations, etc., c'est nos enfants qui sinon risquent de payer les pots cassés d'une abstention climatique qui serait quand même tout à fait irresponsable. Voilà, merci beaucoup.
Merci Jérôme Guibert.